Je dois dire que c'est très émouvant de voir ces œuvres exposées si bien ici, comme si vraiment l'impression était comme s'ils étaient faits pour cet endroit. Et aussi, je veux dire que c'est un grand événement, c'est un petit accrochage qui va continuer encore dans une autre salle, mais c'est un événement important. Et parce que c'est une artiste qui n'a pas eu d'exposition depuis bientôt 45 ans. Elle est décédée il y aura 40 ans l'année prochaine. Et l'année prochaine aussi, il y aura 125 ans de sa naissance. Ça veut dire qu'on aimerait bien que cet accrochage porte à quelque chose de plus grand dans le futur assez proche. À travers cet accrochage et à travers cette idée des complicités artistiques ou des amitiés artistiques, on peut revoir l'histoire de l'art en Bretagne et même un peu plus large, peut-être en France, du XXe siècle de manière différente. Comme quand on a déplacé le regard vers Marguerite Cerisier, pas seulement à Paul Cerisier, on a vu beaucoup de choses, on a vu les personnes qui étaient au centre de médiation, de transmission, de filiation artistique. Là, on commence à compléter ce regard de manière vraiment très riche, parce qu'ici, en vérité, il y a des narrations, il y a des fils de narrations qui se croisent de manière incroyable.
Il y a deux types d'œuvres, pour donner le côté visuel, il y a vraiment deux types d'œuvres très différentes.
Complètement, parce que là, d'un côté, vous avez deux œuvres, deux étoffes abstraites, de la dernière période de l'artiste, ça c'est un Vendredi Saint, et là nous on est un Vendredi Saint, c'est une œuvre de 64 je crois, l'autre œuvre c'est de 81 ou 82, là je ne me souviens pas maintenant, et ce sont les œuvres abstraites, et là qui sont de la collection personnelle de René Lubian, et les deux œuvres qui sont au centre, qui sont des années 30, représente la période de la fréquentation, de l'amitié de Marie-Renée Chevalier-Carverne avec Marguerite Cerisier, qui est du figuratif, qui est en résonance avec les œuvres que vous voyez dans la salle et au musée. Ce sont les deux œuvres qui n'étaient pas dans la collection de René Lubian. Alors moi, je voulais dire sur René Lubian quand même, il est décédé il y a un an. Ce sont les œuvres de sa collection personnelle. C'est lui qui a fait la dernière exposition de Marie-Renée Chevalier-Carverne. Un carton d'invitation pour cette exposition en 82. Des étoffes cousues, une seule, en vérité, importante rétrospective de l'artiste en 70 au musée de Brest. Et voilà, c'est le catalogue de cette exposition qui est en noir et blanc, la petite brochure qui est restée jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui encore, la seule publication dédiée à cet artiste qui en mérite beaucoup, beaucoup plus.
Déjà, ne serait-ce que la technique de l'étoffe cousue, enfin moi je ne connaissais pas, c'est très répandu
C'est l'art de textile dans les années 60, à partir des années 50-60, a été un grand genre de l'art. Il y a eu des grands artistes femmes qui se sont distinguées, comme Sheila Hicks, comme Magdalena Bakanovic, souvent les étrangères, mais il y a eu des biennales de l'art textile à Lausanne, par exemple, à partir des années 60, qui ont été tout le temps. Mais Marie-Renée Chevalier-Carverne le fait différemment. Pour elle, ce n'est pas un genre de l'art textile, ça n'a rien de l'art féminin, si l'on veut, c'est de la peinture faite par les autres moyens.
Oui, alors ça, c'est toute une histoire et tout un cheminement dans l'art moderne et l'art notamment de l'après-guerre, puisque Marie-Renée Chevalier-Carverne, en vérité, ne concevait pas une grande différence entre les étoffes cousues et la peinture. Contrairement à ce qu'on peut penser, les étoffes cousues étaient une continuation de la peinture par d'autres moyens.
Ça se voit, j'ai envie de dire, quand même.
Voilà, donc voilà, c'est important à dire. Alors pourquoi est-elle passée, justement, sans quitter par ailleurs la peinture et le dessin et les techniques traditionnelles, comment est-elle passée en 58, en retour d'un voyage d'Espagne? Elle fait sa première étoffe. Et il y en aura comme ça, c'est une œuvre immense, 120 jusqu'à sa mort, puisqu'elle a laissé sa dernière grande étoffe, c'est un triptyque pour une église en Italie, qui n'a jamais été montrée. Et elle meurt quelques semaines après l'avoir achevée. Comment est-elle venue à cette technique? que souvent on rapproche des arazzi, comment on dit ça en français, des tapisseries de la Renaissance, dont on a aussi un exemple ici dans ce musée. Là, il y a la genèse de ce travail est intéressante parce que je me souviens qu'elle me parlait de sa relation avec Roger Bissière, qui effectivement a composé quelques étoffes. C'est une production très limitée de quelques œuvres qu'il faisait coudre par sa femme, alors que ici toute l'œuvre est conçue et cousue par l'artiste. Hein, donc la question de la couture est très importante. C'est pas du tout un travail secondaire, ça fait partie de l'œuvre à part entière. Et elle me disait qu'un jour, elle avait vu une ficelle cousue sur une toile de Bissière, et ça l'avait déclenché chez elle toute une série de réactions et qui ont mené aux étoffes cousues. Alors, comment ça se passait? Elle disposait sur le sol un support de jute et sur lequel elle jetait à même le sol, à même la toile, des étoffes qu'elle avait découpées ou arrachées. Elle avait tout un stock comme ça, une palette textile immense. Et une fois qu'elle avait trouvé la bonne disposition, elle épinglait tout ça. Et ensuite, il y avait des heures, des jours, des semaines de couture.
Forcément à la main d'ailleurs, parce que absolument. Le point lui-même fait partie de l'œuvre d'art.
Voilà, vous avez compris un point essentiel, c'est le cas de le dire, puisque il n'y a aucun travail mécanique. Il y a le choix du fil qui est important, le choix de où on coud, en bordure ou dans l'étoffe même, la couleur du fil, sa grandeur, etc. Donc la question du fil, c'est un peu l'équivalent du dessin, et l'étoffe, c'est la peinture.
Et c'est resté après son mode d'expression principal, finalement. Même si vous disiez qu'elle n'avait pas abandonné la peinture, c'était quand même son mode d'expression majeur.
Je pense que, effectivement, et ça... Nadia en parlera, en tant qu'historienne de l'art, en parlera mieux que moi, mais il y a quand même un cheminement dans cette œuvre qui aboutit quand même aux étoffes, sans renier et sans abandonner les autres techniques. Elle a continué à dessiner toute sa vie, hein, jusqu'à la fin.
Il y a presque 100 et 120 œuvres qui sont monumentales, parce que là, elles sont encore plus grandes.
Parce que là, ça fait déjà quoi, 2 mètres sur 1.
Voilà, il y en a celles qui sont combien, là, les registres, par exemple.
3 mètres, ça dépasse les 3 mètres en longueur et en hauteur, ça peut atteindre 2 mètres 50.
Ouais, c'était absolument. Aussi une possibilité de faire les œuvres monumentales dans un atelier qui était assez petit, parce que pour faire la toile, peut-être, ce n'était pas possible, alors qu'avec les étoffes, on arrivait à le faire, oui. Et aussi, c'est une espèce une œuvre dans l'œuvre, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des thématiques intéressantes, parce que là, déjà, vous voyez ici les deux thématiques qui peuvent être. Il y a tout un aspect sacré, voilà, il y en a beaucoup. Et aussi, il y a porte orientale, ça veut dire qu'il y a une porte vraiment vers les autres civilisations. L'église arménienne, le chant bolivien, il y a un chant pour un prisonnier, il y a vraiment une ouverture. Il y a des belles... Moi, j'adore l'étoffe qui s'appelle Meneam, il y a des œuvres aussi liées avec la Bretagne. Mais c'est au début, encore avant ces œuvres que nous avons vues, la peinture figurative, il y avait les gravures. Dans les années 30, entre 29, 27 et 35, 36, son expression prioritaire, on va dire celle qu'elle se présentait dans les expositions, c'était les gravures sur bois et sur lino, qui sont connues en Bretagne parce que elles sont sur les sujets bretons, là. Il y a les séries sur les Pardons, à Folgoat, à Plougastel, à Plouguerneau, qui sont au musée départemental à Quimper.
Cette première œuvre de gravure, qui s'intéresse à la vie folklorique, enfin ce que nous appelons du folklore, mais qui à l'époque était la vraie vie du peuple breton qui est en train de disparaître.
Hein. C'est de l'ethnologie, si on veut.
Voilà. Ce travail participe et rapproche aussi Marie-Renée Chevalier-Carvé, en a justement des nabis, et de tout cet intérêt pour le primitif.
Ce qu'on disait primitif, maintenant on ne dit pas.
À l'époque, le primitif, hein, ça, énormément d'artistes de la première moitié du XXe siècle se sont intéressés aux arts primitifs, l'art nègre, ce qu'on appelait l'art nègre, hein, qui a donné lieu au cubisme, Picasso, Braque, etc. Donc cet intérêt pour la Bretagne profonde, ce qui vivait encore, était en train de disparaître, était destiné à disparaître, participe de cet intérêt qui, en fait, sort aussi les sujets de leur contexte purement local, hein, dialogue avec la recherche artistique de ces animaux.
En même temps, ils n'étaient pas dans la mouvance du régionalisme, si l'on veut. C'était pas du tout dans cette chose-là. Mais là, il y a deux choses qu'il faudrait dire. Une, c'est que déjà chez Paul Sérusier, il a apprécié aussi, d'un côté, cette aspiration spirituelle, et d'autre côté aussi ce qu'elle disait, le primitif. Elle a vu là aussi l'intérêt pour la matière des tapisseries dans ses peintures, ça elle a remarqué. Et une autre chose, que peut-être il y a quelqu'un qui peut dire aussi deux mots, c'est qu'elle a eu aussi l'intérêt pour la poterie de l'époque, parce que là il y a cet intérêt pour le primitif, c'est pas seulement dans les gravures, mais aussi dans les céramiques. Et alors voilà, elle a travaillé avec les potiers à l'Agnellis.
Les derniers potiers.
Les derniers potiers.
Oui, et moi, même si je suis médiatrice, j'ai fait mes études aussi. Et quand j'ai réalisé mon Master 1, j'ai eu le plaisir de rencontrer Françoise Coupé, la fille de Marie-Renée Chevalier-Carverne, qui m'a reçue chez elle pour montrer sa collection de poterie de François Coueff, le dernier potier de l'Agnellis. Qu'elle a côtoyé pendant des années, lui et sa femme. Alors, c'était le tout dernier potier. Et elle a écrit également de très belles articles, un pour le bulletin de la Société archéologique et un autre pour les cahiers de l'Iroise, sur cette production de céramique. Et pour moi, ça a été un grand privilège de rencontrer sa fille et d'entendre parler aussi de la passion de Marie-Renée Chevalier-Carverne pour la céramique. Et elle, en compagnie de François Coueff, elle a réalisé des pièces également. Et là, on a des éléments, par exemple, des chemins de croix qu'elle a réalisés, des éléments décoratifs. J'ai eu l'opportunité de voir aussi un cendrier, des objets qu'elle a réalisés. Et elle avait même gardé comme souvenir la tournette du dernier potier, l'outil sur lequel il modelait l'argile. Que j'ai eu le plaisir de photographier pour mes travaux de recherche.
Grâce au fait de cet accrochage, finalement, d'ici 10 jours, peut-être, va paraître le premier ouvrage depuis la brochure de René Lebihan, qui est le petit livre chez Locus Solus, dans la collection 36 vues, où nous avons mis un petit peu de tout, en vérité, parce que c'est très difficile à mettre dans un livre où il y a une quarantaine d'images l'œuvre de toute la vie de quelqu'un qui a travaillé 60 ans, de travailler tout le temps, et qui a travaillé dans toutes les techniques. Vraiment, il y a les gravures, il y a les céramiques, il y a les monotypes, il y a les dessins. C'était une grande dessinatrice. Il y a plus de 120 voilà. Mais quand même, c'est la première chose pour préparer quelque chose d'autre, en vérité.